Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes et en cette émission du vendredi 23 janvier 2026. Nous vous diffusons l'enregistrement de Maurice Lemoine lors d'un café marxiste organisé le 17 janvier 2026. Dernier qui prend la forme d'un décryptage médiatique sur les récents événements qui se sont déroulés au Venezuela.
Oh, Santa Rosa! Oh, Santa Rosa! Patrona del clavo, dame protección, bendice a mi pueblo en tu corazón, bendice a mi pueblo en tu corazón.
Avant de commencer, merci beaucoup déjà au Royal Est, donc le bar qui nous accueille depuis un petit moment pour ces conférences. Merci beaucoup à eux. Et donc aujourd'hui, donc, on a la chance d'accueillir Maurice Lemoine, qui était rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Qui va venir nous parler du Venezuela, donc sujet très d'actualité. Donc Maurice Lemoine, il écrit aussi beaucoup sur un site qui s'appelle Mémoire des luttes, que je vous recommande beaucoup. Et voilà, du coup je laisse...
Alors, bon, on va quand même démarrer par l'actualité immédiate. Donald Trump, dans ses œuvres, il n'y a pas très longtemps, j'ouvre les guillemets, « Le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais rassemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud. » Celle-ci ne fera que croître et le choc pour eux, alors eux c'est les Vénézuéliens, sera sans précédent jusqu'à ce qu'ils restituent aux États-Unis tout le pétrole, les terres et autres actifs qu'ils nous ont volés par le passé. Et il faut qu'ils les rendent immédiatement. Alors j'ai rien arrangé, hein. Ça a été prononcé comme ça. Dans l'histoire du capitalisme ou de sa déclinaison néolibérale, on a déjà vu privatiser des services publics, on a déjà vu privatiser des entreprises, des industries, mais là, on a un prédateur qui veut privatiser un pays. C'est-à-dire, on veut le pétrole, on veut les terres, on veut les richesses. Alors, vous le savez, vous avez peut-être suivi, depuis le mois d'août, face aux côtes du Venezuela, on avait 8 navires de guerre, on avait plusieurs milliers de Marines, on avait un sous-marin à propulsion nucléaire, on avait des avions de chasse à Porto Rico, et on a beaucoup spéculé sur ce qui pouvait se passer. La dernière fois qu'on s'est vu, pour ceux avec qui on s'est déjà rencontrés, on était arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas y avoir d'invasion du Venezuela du fait des rapports de force qui ne seraient pas favorables aux États-Unis. Mais on imaginait des opérations ciblées, on imaginait éventuellement des assassinats. J'avoue honnêtement que personne n'avait pensé à ce qui s'est passé, c'est-à-dire, alors non pas la capture de Nicolas Maduro, mais la séquestration, le kidnapping d'un chef d'État. Hein, c'est-à-dire qu'on est, si on prend le déroulé des événements, et y compris le discours de Trump, qui l'a dit très clairement, on est dans une opération coloniale. On est une puissance, alors pas dans le sens classique de l'occupation pour l'instant, mais c'est une opération coloniale dans la mesure où on s'empare d'un territoire et on s'empare des richesses d'un pays. Et dans le cadre de ce déploiement de forces armées, le discours, à l'origine, c'était les États-Unis luttent contre le narcotrafic. Et les médias, d'une manière générale, ont repris dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Les États-Unis installent une flotte face au Venezuela. Et on a assisté avec un certain effarement, à des frappes contre des embarcations. Alors vous imaginez quand même le sous-marin Gerald Ford, qui est le porte-avions Gerald Ford, qui est le porte-avions le plus moderne, le plus puissant des États-Unis, dépêché pour frapper sur une trentaine d'embarcations et faire 100 morts. Mais quand je dis des embarcations, c'est pas parfois j'ai vu des navires. C'est pas des navires, c'était des embarcations. Ça fait alors dans les conditions que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire que les frappes ont été aveugles, on a coulé des embarcations, on a assassiné les gens. Vous êtes tous capables de comprendre que si on lutte contre le narcotrafic, s'il y a des narcotrafiquants, on les intercepte, on saisit la cargaison, on enquête, on cherche d'où elle vient, où elle va, qui sont les complices, etc. On n'assassine pas purement et simplement les gens, à tel point que quand même, l'ONU s'est un tout petit peu réveillée et que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a parlé, et très justement, d'exécution extrajudiciaire. Et puis, finalement, est arrivé ce qu'on attendait sans savoir ce qu'allait se passer. C'est la nuit du vendredi 2 au 3 janvier, où vous avez plus de 150 avions et hélicoptères qui ouvrent un corridor et vous avez une unité de la Delta Force qui va s'emparer du président Nicolas Maduro. Alors, on reviendra après sur toutes les spéculations sur qu'est-ce qui a pu se passer. Par contre, ce dont on est certain, qu'on a un certain nombre d'éléments dont on est sûr maintenant, pour expliquer la relative facilité, parce que ça a frappé tout le monde, avec laquelle cette opération a eu lieu, il y a eu une cyberattaque électromagnétique depuis des avions qu'on appelle des avions Growlers, qui sont des avions spécialisés, qui ont paralysé les radars qui avaient été fournis par la Chine, qui ont neutralisé les missiles russes. Donc là, pour le coup, ça... Alors qu'on imaginait que la coopération militaire entre le Venezuela et la Russie protéger le Venezuela. Là, je trouve que la technologie des États-Unis est capable de neutraliser les missiles air-terre, et puis qui a coupé l'énergie électrique purement simplement. De sorte que dans ce corridor, et en particulier sur Fortuna, où le président Nicolas Maduro avait sa résidence, les forces états-uniennes se sont engouffrées. On a beaucoup spéculé sur le fait en disant « Oui, mais quand même, ça a été facile, il y a eu trahison, il n'y a pas eu de combat. » Si, il y a eu des combats. Il y a eu des combats, puisque 32 Cubains internationalistes sont morts en défendant Maduro et 23 membres des forces de sécurité vénézuéliens sont morts dans l'histoire. Il y a eu aussi des civils, on n'a pas encore le bilan exact. Pour le moment, on parle d'une centaine de morts et d'une centaine de blessés. Ça sera à voir ultérieurement. Alors, les raisons, vous les connaissez, je les ai déjà un peu évoquées avec Trump. Il y a une personnage dans cette histoire dont il faut parler, même si aujourd'hui on sait que c'est un personnage secondaire, mais qui a eu une extrême importance. Trump vous annonce on veut le pétrole, et vous avez à l'intérieur celle là encore. Excusez-moi, je m'en prends aux médias parce que c'est mes collègues, donc je leur en veux d'autant plus que sur le plan professionnel, bon, j'ai un peu de boutade. Je trouve que l'information aujourd'hui est complètement vérolée, si je peux me permettre cette expression. On a fait de la principale opposante d'extrême droite. Et donc, Maria Corina Machado disait, parce que vous allez voir, la TNAI participait par Internet à un forum qui avait lieu à Miami, réunion des investisseurs, l'American Business Forum. Donc, Maria Corina Machado disait, nous allons ouvrir le Venezuela aux investissements étrangers. Je parle d'opportunités de 1700 milliards de dollars, pas seulement dans le pétrole et le gaz, qui sont des opportunités énormes, et vous le savez. Mais nous allons privatiser les secteurs de l'exploitation et de la production, la raffinerie et le transport, mais aussi les mines et les infrastructures, les gisements d'or, le secteur de l'énergie. Notre réseau électrique dispose de 17 gigawatts et doit être rénové. Et en vue de développer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Sans parler du tourisme, le Venezuela dispose de 800 km de côte avec une eau transparente. La côte Caraïbe est prête à être développée. Nous ramènerons l'état de droit, nous allons ouvrir les marchés, nous apporterons toute la sécurité pour les investissements étrangers, ainsi qu'un programme massif de privatisation, et ces privatisations n'attendent que vous. C'est en gros le discours que Trump est en train de tenir en ce moment à Delcy Rodriguez en disant voilà, on veut tout ça.
«
Alors Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, vous le savez, il a été présenté à un juge à New York après sa séquestration. Et il est inculpé de narcoterrorisme. Il est inculpé de conspiration en vue de narcoterrorisme. Il est inculpé pour possession de mitrailleuses et d'engins explosifs. Et il est inculpé pour conspiration en vue de posséder des mitrailleuses et des engins explosifs contre les États-Unis. J'arrête un court instant sur la notion de conspiration. Que vous voyez qu'il est accusé de narcoterrorisme et de conspiration de narcoterrorisme. En droit aux États-Unis, la conspiration est une accusation pour laquelle il n'est pas nécessaire d'apporter de preuves, d'avoir des preuves. Il suffit de montrer que sur un fait circonstanciel, le complot peut ou peut-être a été exécuté. Nicolas Maduro est accusé de narcoterrorisme. La première inculpation de Nicolas Maduro, c'est en 2020, pendant le premier mandat de Trump, où un juge américain, dont le nom m'échappe, mais ce n'est pas grave, met 20 millions de dollars sur la tête de Maduro, déjà, et l'accuse de narcoterrorisme. Pourquoi cette accusation ? Parce que Nicolas Maduro serait le chef du cartel des soleils. Et le cartel des soleils, vous avez dû le voir ou l'entendre ou le lire, c'est un cartel de militaires vénézuéliens qui pratiquent le trafic de drogue. Alors, le premier élément qui saute aux yeux quand on travaille sur le Venezuela, c'est que le cartel des soleils n'existe pas. Cartel des soleils, ça naît au Venezuela en 1993, avant l'arrivée au pouvoir de Chavez, où vous avez deux généraux qui sont les chefs des services antinarcos qui sont pris, effectivement, la main dans la cocaïne. Et il y a un journaliste astucieux qui trouve, c'est marrant, hein, parce que les généraux vénézuéliens ont des soleils sur les épaules. Il invente une jolie formule, le cartel des soleils. Ça ne porte pas à conséquence. Et puis chaque fois que des militaires vénézuéliens vont être pris avec ce problème, on va ressortir le cartel des soleils. Bon. Sauf qu'à partir de l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, ce concept il est instrumentalisé dans la mesure où on fait croire, où on déclare et où on décide que c'est un cartel organisé, structuré, et que Hugo Chavez en est le chef, déjà à l'époque. C'est passé un peu inaperçu, mais Hugo Chavez a été accusé d'être chef du cartel des soleils. Et puis, évidemment, Nicolas Maduro arrive au pouvoir, et on va avoir le même discours. Sauf qu'il y a vraiment un problème. C'est que, alors d'abord, on est dans un pays qui a 2300 km de frontière avec la Colombie. On est dans un pays, le Venezuela, qui est entre le premier producteur mondial de cocaïne, la Colombie, et le premier consommateur mondial de cocaïne, les États-Unis. Alors déjà, premier point. Deuxième point, tous les rapports. Je dis bien tous les rapports d'organismes intéressés sur le trafic de drogue, et en particulier le rapport de ce qu'on appelle l'ONUDC, c'est l'Organisation des Nations Unies contre le délit et le crime, qui tous les ans sort un rapport sur le trafic de drogue en Amérique latine. Aucun de ces rapports ne mentionne le cartel des soleils. C'est-à-dire que dans tous les rapports spécialisés, le cartel des soleils n'existe pas. Et dans tous ces rapports, on vous explique que plus de 80% de la cocaïne qui sort de Colombie passe par la côte pacifique. Et la côte pacifique, le Venezuela n'a pas de sortie sur le Pacifique. La côte pacifique, c'est l'Équateur, c'est le Pérou, c'est y compris le Chili et puis plus au nord, le Mexique. Que vous avez environ 7 ou 8% qui passent par l'Amérique centrale et qu'il y a entre 5 et 7% qui passent par le Venezuela. C'est-à-dire que le Venezuela, dans le trafic de drogue, est un acteur mineur. Alors certes, il y a 5%. Il y a 5-6%. Ça veut dire qu'au Venezuela, vous avez des gens qui sont un peu liés au trafic. Vous avez des militaires qui détournent les yeux quand il y a une cargaison qui passe. Voilà, mais c'est 5%. Ça ne fait pas du Venezuela le hub du narcotrafic en Amérique latine. Donc, évidemment, cette accusation ne tient pas debout. Sauf que c'est elle qui va servir à présenter au monde entier Nicolas Maduro comme un narcotrafiquant. Alors, Nicolas Maduro, il est également accusé d'être le chef du tren de Aragua, le train d'Aragua. Alors, le train d'Aragua, c'est une bande de narcotrafiquants, de gangsters, de bandits, de délinquants. Le tren d'Aragua, ça aussi existait au Venezuela. Ça a été une bande organisée, assez féroce, assez. Vous savez qu'il y a eu une époque où il y avait l'insécurité réellement au Venezuela. C'est une réalité. Le gouvernement avait du mal à lutter contre, y compris Chavez. Sauf que le train de Aragua, il a été complètement démantelé. Hein, ils avaient pris le contrôle d'une prison, c'est un phénomène assez classique en Amérique latine, ils contrôlaient la prison de Tocoron, et puis ils ont été complètement démantelés. Il se trouve qu'il y a eu, du fait d'un phénomène dont je vais parler dans un instant, mais que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les sanctions, les mesures coercitives unilatérales. Les États-Unis imposent des sanctions au Venezuela, mais non, ça n'a aucun sens. Je veux dire, pour imposer des sanctions, il faut avoir une autorité morale. Éventuellement par facilité, parce que c'est un peu long à chaque fois, mesure coercitive unilatérale. On emploie le mot sanction, mais ce n'est pas des sanctions. Et il se trouve que dans les sanctions des États-Unis dont je vais parler, ben vous avez eu une vague migratoire. Alors, pas 8 millions de Vénézuéliens, comme on lit régulièrement, pas 10 millions de Vénézuéliens, comme j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps. On ne connaît pas le chiffre exact. C'est de l'ordre de 4 millions, 5 millions, 6 millions. Hein. Et dans cette vague de migrants qui sont partis parce que la situation économique était devenue désastreuse, qui sont des migrants pour des raisons économiques et pas forcément pour des raisons politiques, ben vous avez un tas de piétailles du train de Aragua qui sont partis. Et qu'on retrouve aujourd'hui au Chili, au Pérou, en Colombie, qui sont devenus des petits délinquants, qui ont des petites bandes, mais qui ne constituent absolument pas un réseau structuré. Bon. Sauf que Donald Trump, dans son délire, enfin, il n'y a pas que Trump, il y a Marco Rubio, faudra en parler. Dans leur délire, ont décidé que Nicolas Maduro avait lancé à l'assaut des États-Unis des délinquants du train des Aragua pour détruire les États-Unis de l'intérieur. Et vous avez aux États-Unis un organisme qui s'appelle le Conseil national du renseignement, le NIC, National Intelligence Council, qui regroupe 18 agences états-uniennes de sécurité. Ça va de la CIA à la NSA en passant par le FBI. Bon. Je prends le dernier rapport de ce Conseil national du renseignement, 7 avril 2025, qui dément évidemment l'existence du train des Aragua, qui dément que le train des Aragua soit en train d'envahir les États-Unis. C'est de l'information publique. Dernier point, c'est extraordinaire, c'est que Nicolas Maduro est séquestré, kidnappé, présenté devant un juge, et d'un seul coup, dans l'acte d'accusation, le cartel des soleils disparaît. Parce que, évidemment, devant un juge, ça ne va pas tenir. Bon. Sauf que Maduro, il est enfermé. Et que le Venezuela est pris en otage. Le Venezuela est pris en otage. Trump veut reconquérir le Venezuela. Enfin, ou conquérir, parce que c'est les Espagnols qui l'avaient dans le temps. Et donc, c'est un peu compliqué pour un président des États-Unis, encore que Trump se passe assez facilement des règles. Mais enfin, pour déclarer la guerre à un État, normalement, il faut passer par le Sénat, machin, bon, tout ça, vous connaissez. Et donc, Trump a signé un ordre exécutif, parce que à quoi ça sert, là, ce cinéma de Maduro, narcotrafiquant ? Trump a signé un ordre exécutif autorisant le Pentagone à utiliser la force militaire contre les cartels de la drogue requalifiés organisations terroristes, comme Daesh ou comme Al-Qaïda. Et là, il n'y a pas besoin d'autorisation du Congrès. On s'attaque à des narcoterroristes. Je vais reprendre un discours. Une déclaration du département d'État des États-Unis, donc, en janvier 2018, 9 janvier 2018. Écoutez bien, on n'est pas en 2026, hein, 2018. La campagne de pression contre le Venezuela fonctionne. Les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le gouvernement à commencer à tomber en défaut, tant pour la dette souveraine que pour la dette de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale, sa compagnie pétrolière. Ouais. Et ce que nous voyons est un effondrement économique total au Venezuela. Donc, notre politique fonctionne, notre stratégie fonctionne, et nous la maintiendrons. Je ne vais pas vous faire un panorama complet sur les sanctions. Je prends juste un exemple. Le Venezuela disposait aux États-Unis d'une filiale de la compagnie pétrolière PDVSA qui s'appelle Citgo. Citgo, ce sont trois grandes raffineries. Ce sont 4000 stations-service aux États-Unis. C'est, en termes d'actifs, c'est 7 milliards de dollars. Et ça rapportait au Venezuela 11 milliards de dollars par an. Ça a été confisqué par le gouvernement des États-Unis. C'est-à-dire que c'était une confiscation pure et simple. Vous avez dans la Banque du Portugal 1,6 milliard de dollars confisqués. Vous avez à Bruxelles 1,2 milliard de dollars confisqués. Bon. Et donc, les actifs du Venezuela ont été pillés à l'extérieur et les sanctions américaines, sous forme d'un blocus, ont effectivement mis l'économie à genoux. Et il y a un phénomène intéressant, c'est que depuis trois ans, l'économie s'améliore. Alors j'ai lu j'ai entendu dans la bouche de... Vous ne pouvez pas vous imaginer, il s'appelle Thomas Posado. Thomas Posado, c'est le client préféré du service public. France Culture, France Inter, France Info, Radio France Internationale. Thomas Posado, depuis des lustres, je l'entends répéter, ce ne sont pas les sanctions qui sont responsables de l'effondrement économique, c'est la gestion du madurisme. Et puis, il se trouve qu'effectivement, pendant le mandat de Biden, Biden a très légèrement assoupli les sanctions pour laisser la multinationale Chevron exploiter du pétrole au Venezuela. Et il y a 3 semaines, j'entends mon ami Posado, ça devait être sur France Culture ou je ne sais plus où, qui dit, alors, parce qu'on lui dit, mais il semblerait que l'économie s'améliore. Et il dit, oui, effectivement, l'économie s'est améliorée parce que Biden a légèrement assoupli les sanctions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des sanctions, c'est de la faute à Maduro, et lorsque l'économie s'améliore, c'est parce qu'on a assoupli les sanctions. Juste un truc sur le madurisme. Parce que maintenant, on vous parle... Alors là encore, c'est le discours à gauche. Il y a un discours à gauche qui est anti-Maduro. Et on vous dit, attendez, c'est plus le chavisme. Parce qu'à l'époque de Chavez, c'était génial. Ils étaient tous à Caracas. Je les ai tous vus à Caracas. C'était Chavez, c'était la bête, c'était sexy, quoi. C'était une révolution. Et puis c'est devenu plus compliqué. Et donc maintenant c'est devenu, oui mais non, c'est plus Chavez, c'est le madurisme. Alors, à cet égard, je vais vous rappeler une phrase de Fidel Castro. Fidel Castro participait à un grand raout internationaliste avec des latino-américains qui étaient venus de partout. Et à un moment, il y a un dirigeant d'un mouvement social latino-américain qui dit à la tribune, « Et d'ailleurs, nous devons tous suivre l'exemple de Cuba. » Et Fidel Castro l'arrête. Il lui dit, « Non, camarade. Il ne faut pas suivre notre modèle. Nous n'avons pas fait la révolution que nous voulions faire. Nous avons fait la révolution qui nous a été imposée par les circonstances. » C'est pareil au Venezuela. Au Venezuela, c'est le chavisme qui est au pouvoir. Mais c'est un chavisme qui a été affaibli par les sanctions, qui a été attaqué en permanence. Alors, ça fait partie du problème. C'est le président ouvrier. Maduro, il a été chauffeur d'autobus. C'est pas sérieux. Bon, il a été ministre des Affaires étrangères de Chavez, c'est un militant, il a été ministre des Affaires étrangères, etc. Il a subi 10 fois plus d'épreuves que Hugo Chavez. Hugo Chavez, on s'en souvient, il y a eu un coup d'État le 11 avril 2002, ça a duré 2 jours. Il a été séquestré, c'est pas nouveau, hein. Il a été séquestré, sauf que, par chance, il a été séquestré sur le territoire national. Il est séquestré le 11 avril, et le 13 avril, vous avez... une manifestation énorme à Caracas. Vous avez une jonction entre El Pueblo, le peuple, la population, hein, pour ne pas avoir l'air de « Ah, le El Pueblo !» Et puis l'armée, et Chavez s'est libéré. Là, en ce moment, c'est plus compliqué parce que Maduro est aux États-Unis. C'est pas la même chose. Mais, et puis bon, après, je veux dire, l'opposition, elle a été, d'une certaine manière, domptée. Dernier candidat de droite qui a affronté Chavez disait « Contre Chavez, on ne peut rien faire, c'est le Mohamed Ali de la politique. » Mais quand Maduro est arrivé, ils se sont tous dit « Maduro, ce n'est pas Chavez. » Maduro, il a eu une tentative d'assassinat le 4 août 2018 avec des drones. Il a vécu ce qu'on appelle l'opération Gédéon, c'est-à-dire une invasion mercenaire venue depuis la Colombie. Alors c'est aussi intéressant ça, parce que on a eu l'impression que c'était des piédiclés qui avaient organisé depuis la Colombie une opération pour on ne savait pas trop quoi d'ailleurs, entre parenthèses. Sauf qu'il y a eu un contrat qui a été signé avec cette équipe de mercenaires. C'était à l'époque où, vous vous en souvenez, il y avait le président autoproclamé Juan Guaido. Juan Guaido, qui était le président fantoche, nommé à ce moment-là, signe un contrat avec ceux qui vont lancer cette opération qu'on appelle l'opération Gédéon. Un contrat de 212 millions de dollars pour, j'ouvre les guillemets, capturer, arrêter ou éliminer Maduro. On était déjà dans une opération mafieuse. Et je veux dire, ce que je vous raconte là, ça a été raconté par CNN, ça a été raconté par le Washington Post, ça a été raconté par la presse américaine. Oh, Santa Rosa, oh, de la culture. L'un des points qu'on reproche à Maduro, c'est qu'il n'a pas été élu dans des conditions normales. Il n'a pas été élu démocratiquement, puisque en 2024, c'est l'opposition qui avait remporté l'élection. Et c'est vrai que c'est un point sensible sur lequel, en général, on ne sait pas trop quoi dire. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez, chaque fois que l'opposition gagne une élection, elle considère que ça s'est passé dans des conditions normales. Et chaque fois qu'elle les perd, il y a eu fraude. Parfois, d'ailleurs, dans la même élection. Par exemple, en 2004, il y a eu un référendum révocatoire contre Hugo Chavez. Chavez l'a gagné. L'un des dirigeants de l'opposition, Henri Ramos Sayoup, a dit qu'il y a eu fraude. On va apporter les preuves. C'était 2004, on est en 2026, on attend encore les preuves. Bon. Il y a un moment clé qui vous sera sans doute souvent opposé, c'est l'élection législative de 2015. L'élection législative de 2015, l'opposition la gagne. Elle la gagne. Elle gagne 112 sièges sur 167. Bon, voilà. Et c'est Nicolas Maduro qui est au pouvoir, Hugo Chavez est mort, et Nicolas Maduro dit, l'opposition a gagné, ok, vous avez l'Assemblée nationale. Sauf que, pour avoir la majorité qualifiée, il faut les 112 voix. Il se trouve que dans cette élection, il y a 4 candidats qui sont accusés d'avoir commis des fraudes. Il y a un chaviste et il y a 3 membres de l'opposition. Avec des preuves apportées, ils ont payé des électeurs. Et donc, le Conseil national électoral dit sur ces 4-là, il faut refaire l'élection, il y a eu irrégularité. Et l'Assemblée nationale dominée par la droite leur fait prêter serment malgré ça. Hein, c'est-à-dire qu'elle dit, oui d'accord, le Conseil national électoral prétend qu'il y a eu fraude, mais nous on s'en fout. On les installe à l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale pour la Cour suprême de justice rentre en ce qu'on appelle en desaccato, c'est-à-dire outrage à l'autorité. Je transpose. On est en France, dans un pays démocratique ou à peu près. Imaginons que 4 députés soient élus à l'Assemblée nationale et qu'on découvre qu'il y a eu fraude et qu'il faut éventuellement refaire l'élection. Je ne vois pas comment le président de l'Assemblée nationale pourrait décider qu'ils vont siéger quand même. C'est aussi bête que ça. Et donc, effectivement, l'opposition, alors qu'elle aurait pu très bien avoir la majorité et effectuer son rôle législatif, se retrouve en desaccato et le pouvoir décide que tant que ces 4 députés siégeront d'une manière illégale, l'Assemblée nationale est hors jeu. Et pour remplacer cette Assemblée nationale, parce qu'à un moment ça va devenir compliqué, on va élire une Assemblée constituante, tout simplement pour que Maduro, lorsqu'il prend des décisions, puisse s'appuyer sur des élus. Après, vous avez la présidentielle de 2018. Présidentielle de 2018, l'opposition boycotte. Maduro gagne. Facilement. Enfin, facilement non, avec 52% des voix. Hein. L'opération, c'était quoi? C'est qu'effectivement, en 2019, on a l'autoproclamation de Juan Guaido. Je reviens juste sur un point. Il n'y a pas eu d'autoproclamation. Même, y compris moi, j'ai dit le président autoproclamé. C'est pas vrai. Ça se passe le 23 janvier 2019. Le 22 janvier 2019, vous avez le vice-président des États-Unis, depuis Washington, hein, puisque la capitale des États-Unis à l'époque n'était pas Mar-a-Lago. Depuis Washington, le vice-président des États-Unis appelle l'opposition vénézuélienne à descendre dans la rue. Et c'est dans ce cadre-là, dans une manifestation appelée par les États-Unis, que Juan Guaido tient le rôle qu'on lui a assigné, c'est-à-dire je me proclame président du Venezuela. Et il arrive à être reconnu par non pas la communauté internationale, mais par les États-Unis, par les pays de l'Union européenne, par notre ami, comment il s'appelle, Macron, etc. Mais c'est pareil, tout ça, ça participe de la formation d'une opinion publique. Et puis, à un moment, Biden, qui arrive donc après le premier mandat de Trump, il dit, bon, ça, Guaido, ça a foiré. Et donc Biden dit à l'opposition, bon, ben, écoutez, il faut retourner à l'élection. Parce que là, franchement, ça, on est en train de partir en vrille. Et donc, l'élection vient négocier avec le gouvernement de Maduro. Hein, il y a toujours eu des négociations. Hein. Et à la Barbade, en octobre 2023, il va y avoir un accord entre l'opposition, la plateforme d'unité démocratique, et le gouvernement de Nicolas Maduro. Il y a une formation politique qui ne participe pas à cette négociation, c'est le parti de Maria Corina Machado, qui se considère toujours à l'extrême droite de tous les autres partis de droite au Venezuela. Elle ne participe pas à la négociation. Au terme de cette négociation, on organise l'élection de 2024. Et on se met d'accord. Il y a un texte qui est signé qu'on appelle l'accord de la Barbade. C'est un accord partiel où les partis reconnaissent les droits constitutionnels de tous les secteurs politiques du pays, tous les acteurs politiques, avec une mission d'observation internationale, etc. On a un problème à ce moment-là, c'est qu'il y a une certaine Maria Corina Machado qui est inéligible. Elle est inéligible parce que... alors déjà, en 2002, lors du coup d'État contre Hugo Chavez, elle a signé le fameux décret qui renversait Hugo Chavez, qui destituait toute l'Assemblée nationale, qui destituait tous les corps constitués. Donc déjà, en 2002, elle était dans le coup. Hein. Et puis, en 2004, c'est elle qui organise le référendum révocatoire contre Chavez, mais ça, c'est dans la Constitution, il n'y a rien à dire. Et puis, en 2014, au moment où il y a des violences insurrectionnelles, elle va s'exprimer devant l'Organisation des États américains. Et pour ce faire, le gouvernement du Panama lui offre un poste d'ambassadrice exceptionnelle. Il se trouve que pour... Et donc, elle va à l'OEA et elle demande des sanctions contre son propre pays. Et donc, elle est déclarée inéligible. Et puis ensuite, pendant toute la période Guaido, et après Guaido, elle va passer son temps à réclamer des sanctions contre le Venezuela, à demander une intervention des États-Unis au Venezuela, ce qui vient de se passer, à demander un bombardement, à demander... Bref, bon, elle est inéligible. Et je vous cite l'article 3.5 de l'accord de la Barbade que tout le monde a oublié, y compris les observateurs, y compris le président du Brésil, Lula, y compris le président colombien, Gustavo Petro. L'article 3.5, il disait « Le processus électoral, pacifique et participatif, se déroulera sans ingérence extérieure, dans le respect des citoyens, dans le respect de l'autorité électorale, des acteurs politiques, de la Constitution et des lois du pays. » Et dans cet accord de la Barbade, on dit qu'on va réexaminer le cas des gens inéligibles. Mais on ne dit pas que, par définition, ils vont être amnistiés. Et donc, il va être confirmé que Maria Corina Machado est inéligible. Et malgré ça, elle va participer à la primaire de la droite. Elle va la gagner avec 2 200 000 voix. C'est 91% des électeurs de la primaire de la droite. Sauf quand même que les 1 200 000 voix qu'elle a eues, c'est 10% du corps électoral. C'est-à-dire qu'on vous a bâti la leader de l'opposition vénézuélienne, alors qu'en réalité, il y a une opposition modérée au Venezuela. Et cette opposition modérée, elle a participé à l'élection de 2024. Il y avait 10 candidats. Il y avait Maduro et il y avait 9 candidats de droite. Dont le vieux monsieur que Maria Corina Machado a sorti de la naphtaline pour se présenter à sa place puisqu'elle ne pouvait pas se présenter. Bon. Là où il y a un problème, c'est que malgré l'accord de la Barbade qui avait été signé par l'opposition, avant l'élection, d'un seul coup, l'opposition de droite radicale annonce qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats annoncés par le Conseil national électoral. Alors déjà, imaginez chez nous un parti qui dit ben non, nous ne reconnaîtra pas les résultats du ministère de l'Intérieur. On aura notre propre décompte. Et le jour de l'élection présidentielle 2024, alors vous avez, tiens, ça rappelle ce qui s'est passé il y a quelques jours, une cyberattaque sur le Conseil national électoral, qui est coincé, qui ne peut pas donner les résultats complets. Et vous avez l'opposition qui annonce, nous on a les résultats, on a gagné avec 70% des voix, et Maduro a 30% des voix. Alors déjà, il y a un truc bizarre, c'est qu'ils oublient qu'il y avait 8 autres candidats. Hein, c'est 70-30. Les autres candidats de droite modérée, ils n'existent plus. Ça passe. Alors, la communauté internationale, sous autorité des États-Unis, décide qu'il faut demander à Nicolas Maduro de présenter les procès-verbaux de l'élection. Et le Venezuela refuse. Le Venezuela refuse parce que, face à la polémique, il convoque tous les candidats devant le tribunal suprême de justice. Et vous avez 9 candidats qui se présentent devant le tribunal suprême de justice avec les procès-verbaux, y compris Maduro, y compris la droite modérée. Et le seul qui arrive les mains vides, ce sont les avocats de Edmundo González, l'ami de Maria Corina Machado. Et lorsque le juge lui demande « Mais attendez, et les procès-verbaux que vous prétendez avoir ?» Il dit « Non, je ne sais pas où ils sont, c'est Maria Corina Machado qui s'en est occupée. Bon. » De sorte que, moi je ne peux pas vous affirmer que Maduro a gagné l'élection. Effectivement, on n'a pas vu les procès-verbaux. Mais personne n'a vu les fameux procès-verbaux de l'opposition. Si vous posez la question aujourd'hui, mais où sont ces procès-verbaux? Vous savez où ils sont? Ils sont dans le coffre d'une banque à Panama. Alors, on va s'amuser deux minutes. On va s'amuser deux minutes. Imaginez ici, tiens, on va prendre le Rassemblement national au hasard. Ils refusent le résultat des élections. Ils demandent à nos propres procès-verbaux et ils sont dans le coffre d'une banque en Russie. Imaginez un peu le tollé. Sur le Venezuela, non? Et sur les 10 candidats, vous en avez 8 qui reconnaissent les résultats. Je vais vous faire un décryptage du monde. Alors ça, c'est le monde du 6 janvier. Ouais, du 8 janvier. Donc sur la séquestration qui s'applique de Nicolas Maduro. Donc Caracas, état d'urgence et fausse transition. Alors, il y a une photo horrifiée, c'est un membre des collectivos, c'est un homme armé. Alors, les collectivos, ce sont des militants qui, après la tentative de coup d'État contre Chavez, qui a foiré, se sont organisés en disant « Nous, on défend la révolution ». Et dont certains sont armés, relativement peu d'ailleurs. Hein. Les gens à qui on donne des armes au Venezuela, les civils, ce sont ceux qui participent à la milice bolivarienne, qui sont encadrés par l'armée, qui n'ont pas les armes chez eux. Hein. Mais les collectivos, c'est des militants radicaux. Il faut vraiment rappeler qu'on n'est pas en Suisse. On est dans un pays qui est agressé. On est dans un pays sur lequel il y a une menace permanente, en particulier avec Trump, d'intervention. On ne sait pas comment. Donc vous avez des vrais militants qui sont beaucoup attaqués par une partie de l'extrême gauche. Et là, pour le coup, ça me fait marrer. Parce qu'il y a eu, j'ai vu passer des dizaines de débats, c'est « Oui, mais alors pourquoi est-ce que Salvador Allende, il n'a pas donné des armes au peuple ?»« Oui, mais alors pourquoi est-ce que, au moment du renversement de Jacobo Arbenz au Guatemala, il n'a pas armé la population ?» Et là, vous avez effectivement une population qui prend en main son destin, et d'un seul coup, ça devient les paramilitaires à Maduro. Bon, ça mérite une réflexion. Alors, je dis... bien que sporadiques, des manifestations pro-Maduro ont été organisées à l'appel du régime, à l'instar de la grande marche des femmes qui s'est tenue mardi. Voilà. Alors, sporadiques, non. Tous les jours, il y a des manifestations à Caracas. Alors, j'ai d'ex-copain qui dit « Oui, mais quand même, c'est pas les grandes manifestations au moment du coup d'État contre Chavez. » Ben oui, c'est vrai. Alors c'est vrai pour deux raisons. D'abord parce que la crise économique, effectivement, a fait qu'il y a une partie de la classe populaire qui s'est retirée en disant « on n'en peut plus, on en a marre, c'est la faute à Maduro, ou de toute façon, tant qu'on aura le chavisme au pouvoir, on va avoir des emmerdements. Donc, » Donc effectivement, je veux dire, les mobilisations populaires, elles sont plus... Mais là, on n'est pas en 2002. 2002, Chavez, il était sur le territoire vénézuélien. Ça a été monstrueux. Moi, j'étais là-bas, c'était monstrueux. Là, ça va être dans la durée. Donc vous avez un jour les femmes qui se mobilisent, le lendemain c'est les collectivos, le jour d'après c'est les communards, les comuneros. Puis les gens, c'est un truc bizarre, les gens ils travaillent, hein. Les gens ils travaillent au Venezuela, ils peuvent pas être tous les jours dans la rue. Hein. Donc il y a eu une grosse manifestation au départ, et maintenant il y a des manifestations de femmes, et tous les jours il y a des manifestations, ce qui sont des manifestations importantes. Je reviens au monde. L'une des premières mesures entérinées dès le 3 janvier par le régime, a été la déclaration d'un décret d'estado de commotion intérieure, sorte d'état d'urgence qui octroie des pouvoirs élargis au chef de l'État, qui avait été préparé par Nicolas Maduro en septembre 2005 face à la menace, alors entre guillemets, d'une agression de l'Empire américain. Bon. Celui-ci, donc l'état de commotion intérieure, a été mis en place alors même que le Venezuela n'est pas en guerre. C'est-à-dire, on venait juste d'enlever Maduro, hein. On venait juste de bombarder, il y a 100 victimes, nanana. Le Venezuela n'est pas en guerre. Alors, cet état de commotion interne ordonne notamment la recherche et l'arrestation de toute personne impliquée dans la promotion de l'attaque de l'armée des États-Unis. Les opposants au régime espéraient que le départ du dirigeant signifierait une renaissance de la démocratie et des libertés individuelles. C'est pour l'instant tout le contraire qui est arrivé. On attendait, hein, ce n'est pas les opposants vénézuéliens, c'est on. On attendait le retour de Maria Corina Machado. Voilà. Et alors, vous avez suivi ce qui s'est passé hier, parce qu'il s'est passé depuis quelques jours. Maria Corina Machado, qu'on nous a présenté, alors qu'il y a eu le prix Nobel de la paix. Bon, pour ne pas le donner à Trump. Et qui, effectivement, pensait bien revenir en triomphatrice après l'intervention des États-Unis au Venezuela. La première déclaration de Trump, quand on lui a posé la question, il a répondu, excusez-moi ce que je répète depuis des lustres, non, Maria Corina Machado, elle n'a aucun soutien et aucun respect au Venezuela. Il l'a dit, hein. Et puis, il a rajouté un truc plus sérieux, c'est que de toute façon, elle n'aurait pas le contrôle du Venezuela, et ça, c'est vrai. Elle ne contrôlerait pas ni la police, ni l'armée, ni les collectivos, ni les communes. Et donc, Maria Corina Machado, elle s'est fait jeter par Trump. Et en réalité, et donc hier, elle était à la Maison-Blanche et elle a eu un déjeuner privé avec Donald Trump. Elle lui a offert son prix Nobel de la paix. Moyennant quoi, les connards qui lui ont filé le prix Nobel de la paix ont protesté en disant qu'on ne pouvait pas donner son prix Nobel de la paix. Et voilà, et de cette réunion entre le parrain et puis sa marionnette, il n'est rien sorti. En ce moment, le grand discours dans les médias tous, c'est qu'il y a eu trahison. Et Delcy Rodríguez est en train de trahir, parce que Delcy Rodríguez, donc la vice-présidente, a été assermentée par sur la Constitution. Elle remplace Maduro. Elle s'est déclarée qu'elle est présidente intérimaire, en attendant le retour de Maduro. Et vous avez tout un discours. Alors, sur les questions légitimes qu'on se pose, comment tout ça a été possible? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, sur l'opération de séquestration de Nicolas Maduro, par définition, il y a eu une ou des trahisons de gens qui savaient. Hein. Parce que vous avez quand même la récompense de 50 millions de dollars sur la tête de Maduro. Hein, ça donne des idées. Bon, donc, il y a eu, pour localiser Maduro et pour savoir comment, il y a eu des trahisons. Mais le discours sur la trahison institutionnelle, dans lequel Delcy Rodríguez aurait négocié par avance avec Trump pour éliminer Maduro, ça ne tient pas. Pour le moment, enfin, là, pour le coup, ça ne tient pas. Sauf que c'est une campagne qui est en train d'être lancée pour deux raisons. La première raison, c'est de diviser le chavisme au Venezuela, hein, pour que tout le monde commence à se méfier de tout le monde. Deux, pour semer la confusion. Et trois, pour, par rapport à ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire vous, moi, fait voir que le chavisme, c'est mort, c'est en décomposition. Il se trouve que Delcy Rodríguez est une militante, comme son frère Jorge Rodríguez, ils sont les fils d'un dirigeant des années 70 qui a créé la Ligue socialiste, qui était marxiste-léniniste, et qui a été torturé et assassiné. Donc ils ont la politique dans les gènes, ils ont la gauche dans les gènes. Delcy Rodríguez, elle a été ministre de la communication, elle a été ministre des Affaires étrangères, elle a été présidente de la fameuse constituante, et puis elle a été vice-présidente, et elle a été chargée de l'économie pendant toute cette période, les trois dernières années où l'économie s'est améliorée considérablement. Sauf que le Venezuela est pris en otage, là, à l'heure où nous parlons. Parce que, le président a été séquestré, donc Delcy Rodríguez l'a dit, notre priorité, c'est la libération de Nicolas Maduro. Deux, parce que la flotte des États-Unis reste face aux côtes du Venezuela. Et que, en gros, Trump, qui manifestement ne peut pas envahir le Venezuela, parce que ça serait une guerre prolongée, si Delcy se montre trop rebelle, peut faire crever les Vénézuéliens de faim. C'est aussi bête que ça, hein ? C'est aussi bête que ça. Quand je vous dis que l'économie s'est améliorée, le Venezuela, qui auparavant importait 80% de son alimentation, maintenant produit 80% de son alimentation. Sauf qu'effectivement, la situation est extrêmement compliquée. Je veux dire, on est face à un mafieux qui a dit très clairement « Je veux votre pétrole. Si Delcy n'obéit pas, ce qui va lui arriver sera pire que ce qui est arrivé à Maduro. Je ne parle pas des menaces maintenant qui passent sur Cuba, parce que je dis que la flotte des États-Unis est restée face à la côte du Venezuela, sauf deux navires qui sont maintenant au nord de Cuba. Pour Delcy Rodriguez, la situation est extrêmement complexe. Il va falloir lâcher du lest. Et Trump, évidemment, parce que s'il est malade, mais en même temps, il n'est pas con, il a déjà annoncé que Delcy était très docile et que les États-Unis allaient avoir du pétrole vénézuélien. Alors ça, c'est tout le discours pour brouiller l'opinion. Parce que du pétrole vénézuélien, il n'a jamais été refusé aux États-Unis. Jamais il a été refusé aux États-Unis. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est que lorsque Chavez arrive au pouvoir, il décide de changer les règles du jeu. Et il impose aux multinationales un accord d'association dans lequel, par définition, la compagnie pétrolière nationale PDVSA a au minimum 51% des actions. Mais les multinationales n'ont jamais été chassées du Venezuela. Et donc, même pendant la période de Chavez, même pendant les périodes de tension, le pétrole vénézuélien coulait vers les États-Unis. Donc, ce que raconte Trump en ce moment, en disant on est en train de récupérer le pétrole du Venezuela, c'est absurde. S'il n'y a plus eu de pétrole vénézuélien aux États-Unis, c'est à cause des sanctions. Évidemment. Donc, il y a tout un discours qui va chercher à enfumer l'opinion, en disant, vous voyez, Delcy est en train de céder, alors qu'en fait, on revient, si on verra comment elle va réussir à négocier ça, dans des conditions à peu près classiques. Alors, le problème, sans doute, pour le Venezuela, c'est que, dans le cadre de cette opération, ce que veut faire Trump, en réalité, là, c'est plus compliqué, c'est chasser les multinationales chinoises, qui ne sont pas aux États-Unis. Donc là, on rentre dans un jeu beaucoup plus large sur la volonté de Trump de chasser la Chine de l'ensemble de l'Amérique latine, puisqu'il faut rappeler que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de quasiment tous les pays d'Amérique latine, y compris les pays de droite, et que l'offensive principale, elle est là. Je veux dire, on n'est pas au Venezuela dans une nationalisation comme on en faisait dans les années 60 ou 50, où on virait les multinationales. Hein. Je veux dire, ça a toujours été une économie mixte, l'État a la majorité, mais vous êtes les bienvenus. Je veux dire, c'est et ça pour le coup. Et Nicolas Maduro, y compris dans les dernières années, a toujours lancé des appels aux États-Unis en disant mais attendez, on n'est pas en guerre, vous êtes les bienvenus. Y compris ce qui lui a valu d'être accusé par l'extrême gauche d'être un néolibéral. Or, en fait, il n'avait pas changé la règle du jeu par rapport à Chavez. La marge de manœuvre, honnêtement, là pour le coup, je suis comme vous. Hein. Je suis comme vous. La marge de manœuvre de Delcy Rodriguez, elle est très étroite. Franchement, elle est très étroite. Je veux dire, il va pas falloir lui tomber dessus. Elle va être obligée de négocier. Parce que, tout à l'heure, je l'ai dit, je veux dire, cette flotte, ce blocus que veut imposer les États-Unis, il peut être dramatique pour le Venezuela. On revient aux sanctions du premier mandat de Trump. Je veux dire, ça avait démoli l'économie. Ils sont en train de remettre... Alors, c'est pas par hasard non plus si ça arrive maintenant. Ils étaient en train de remettre en place l'économie. Ils étaient en train de prouver au monde entier que malgré l'agression des États-Unis, le Venezuela redevenait un pays qui fonctionnait. Et donc, il faut casser ça. Parce que le Venezuela, ce n'est pas uniquement du pétrole, c'est un symbole, c'est comme Cuba. Pourquoi est-ce que les États-Unis s'en prennent à Cuba depuis 60 ans, franchement? Parce que c'est un symbole. Et avec un type qui a un ego comme Trump, c'est pas possible que ce symbole y reste. Hein. La marge de manœuvre, elle était étroite. Moi, je vais sans doute vous choquer. Mais malheureusement, dans les rapports de force actuels, je pense qu'une grande partie de la solution viendra des États-Unis eux-mêmes. Il y a les mid-termes, bientôt. Il y a une partie de la population aux États-Unis qui commence quand même à se poser des problèmes par rapport à Trump. Parce qu'il est en train, y compris, de nuire aux intérêts des États-Unis. Donc, une partie de la solution peut venir de là. De l'Amérique latine, malheureusement, on est dans une configuration dans laquelle ce qui a existé dans les années 2000... lorsque, précisément, à l'instigation de Chavez et de son ministre des Affaires étrangères, Nicolas Maduro, ont été créées l'Union des Nations Sud-Américaines, ont été créées la Communauté des États latino-américains et Caraïbes, et tout ça a été détruit dès que la droite est revenue au pouvoir. Y compris l'actuel président de la CELAC, donc la Communauté des États latino-américains et Caraïbes, donc sans les États-Unis, a voulu réunir récemment la CELAC, précisément pour réfléchir entre latino-américains sur la présence de cette flotte américaine face aux côtes du Venezuela, mais aussi de la Colombie. Parce que dans les gens qui sont morts dans les frappes américaines en mer des Caraïbes, il y a des Colombiens. Donc Petro, il a été en colère. Et il a convoqué la CELAC. Et là, on s'est rendu compte que ben, y a la droite et puis il y a la gauche. Et Petro a dit, je suis président de la CELAC et je ne peux rien faire, rien, rien, rien. Hein, c'est-à-dire que l'Amérique latine aujourd'hui est complètement polarisée entre une droite, vous prenez Javier Milei en Argentine, vous prenez le Pérou, vous prenez Daniel Noboa en Équateur, qui sont, excusez-moi, je vais utiliser le vocabulaire classique, qui sont les vassaux des États-Unis. Entre parenthèses, pendant qu'on parle du Venezuela, je vous signale que là, à l'heure où nous parlons, et dans trois jours, va culminer un coup d'État électoral au Honduras. Alors lui qui passe complètement inaperçu. C'est-à-dire que les élections au Honduras ont été complètement trafiquées et que deux jours avant le scrutin, parce qu'on est dans la grande logique, et peut-être qu'il va falloir qu'on parle de la nouvelle doctrine de sécurité nationale, du retour de la doctrine de Monroe. Mais deux jours avant l'élection au Honduras, l'Honduras est un petit pays d'Amérique centrale, Trump a fait une déclaration en disant « Si vous ne votez pas pour le candidat du Parti national, Nasri Asfoua, qui est mon candidat, je établis des représailles sur le Honduras. » Il se trouve que 20% de l'économie du Honduras, c'est ce qu'on appelle les remessas, c'est-à-dire l'argent que les migrants honduriens aux États-Unis envoient. Et les électeurs honduriens ont reçu sur leur téléphone portable un SMS avec une base de données de 4 banques, un message sur « Si vous ne votez pas correctement, il n'y aura pas de remessas au mois de décembre. » Eh ouais. Et vous avez eu parallèlement un sabotage par deux membres du Conseil national électoral du système de transmission des résultats. Et dans trois jours, je crois, la présidente de gauche, Xiomara Castro, du Parti Libre, a annoncé qu'elle remettrait le pouvoir à un gouvernement de facto. Parce que le Honduras n'a pas la possibilité de résister. Si Trump applique des sanctions, c'est 20% du PIB qui dégage. C'est la misère. Et les États-Unis n'auront même pas besoin d'amener des troupes depuis on ne sait pas où, puisqu'il y a la principale base militaire des États-Unis au Honduras, à Palmerola. Là encore, est-ce que la gauche ne s'est pas encore intéressée à cette expression, cette expérience de démocratie participative au Venezuela? Alors, je vous résume en gros ce qui se passe. Ce pays qu'on présente comme un pays autoritaire, non démocratique, etc. Chavez, dès son arrivée au pouvoir, il nous sort son truc de démocratie participative et protagonique. Alors déjà, protagonique, bon, participative à la limite, on pige. Protagonique, bon, c'est pas trop. On parle de la révolution bolivarienne. Mais les 51 premiers décrets-lois de Chavez qui vont lui valoir un coup d'État, à la limite, c'est social-démocrate. Hein. Je veux dire, il fait passer, par exemple, la loi qu'on a présentée comme la loi de nationalisation des hydrocarbures, c'est pas tout à fait ça. C'est une interdiction de privatiser les hydrocarbures. Et effectivement, avec ce dont on parlait tout à l'heure, un accord d'association avec les multinationales étrangères. Vous voyez, on n'est pas dans la révolution... L'un des premiers décrets-lois que fait passer Chavez, c'est l'interdiction des chalutiers près des côtes vénézuéliennes pour protéger les poissons et pour protéger les pêcheurs artisanaux vénézuéliens. Réforme agraire, je veux dire réforme agraire, c'est pas un gros mot. Bref. Et indépendamment de ça, Chavez parle de la démocratie participative. Et vous allez avoir immédiatement une espèce d'effervescence avec des cercles bolivariens. Donc les cercles bolivariens, bah, c'est vous là, tiens. On imagine que vous habitez tous le même quartier, on se réunit, on discute, on défend la révolution, puisqu'il y a eu le coup d'État. C'est l'émergence des collectivos qui vont venir après. Vous avez des comités de santé. Alors dans le quartier, on s'organise pour... vous avez les comités de l'eau. Parce qu'il n'y a rien dans des quartiers populaires. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est les comités de quartier qui organisent, qui font remonter aux autorités. Voilà. Il y avait une espèce d'effervescence partout dans tout le pays. Et puis à un moment, Chavez dit, bon, tout ça c'est bien gentil, mais c'est un... enfin, il dit pas ça comme ça, encore que. Mais c'est un peu bordélique. Hein, c'est pas. Voilà, c'est. Et donc, il dit, on va organiser tout ça et on va remplacer tout ça par des conseils communaux. Et donc, on va avoir un premier réordonnancement de tout ça. Le conseil communal, c'est là encore des associations de quartier qui déterminent entre eux. quels sont les besoins prioritaires du quartier, qui font remonter l'information aux autorités, et puis qui commencent à travailler à l'amélioration du quartier. Je vais prendre un exemple concret, parce que vous aviez des comités des terres urbaines. Comment ça fonctionne ? Au Venezuela, vous avez le pétrole, et donc vous avez une majorité de la population des campagnes, avec des grands propriétaires qui occupaient toutes les terres, qui, plutôt que de se battre pour garder leurs terres, sont tous venus en ville pour bénéficier des miettes du pétrole. Donc ils sont arrivés, vous avez tous vu des photos de Caracas, entre autres, hein, avec la ville moderne, et puis tout autour, les cerros avec des bidonvilles, bon. Les gens, ils arrivent là et puis ils construisent leur baraque. Alors ils construisent d'abord une baraque en bois, et puis ils y mettent des tôles, et puis un peu après, ils mettent des briques, etc. Mais tout ça, c'est un truc complètement improvisé. Et surtout, aucun d'entre eux n'a de titre de propriété. C'est-à-dire que tous, ils sont sous l'épée de Damoclès, qu'un jour, un propriétaire arrive en disant « Ce terrain, il est à moi, vous vous êtes installé là, c'est pas possible. » Et donc Chavez dit « On va donner des titres de propriété. » Mais, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. On va vous envoyer des techniciens qui vont vous apprendre à cadastrer le quartier. Et donc vous allez avoir dans tous les quartiers des stages dans lesquels des habitants du quartier vont aller voir avec les techniciens, ça va durer une semaine, apprendre à cadastrer le quartier. Et Chavez leur dit, maintenant vous allez cadastrer le quartier, et pour la première fois dans l'histoire du Venezuela, on va avoir un cadastre. Et quand ce travail aura été fait, vous aurez des titres de propriété. C'est pas cadeau. C'est vous vous organisez, vous participez, et ensemble, on améliore la situation. Et puis vous allez, je résume, hein, vous allez avoir à partir de 2006, je crois, là encore une réflexion sur, bon d'accord, les conseils communaux c'est bien, vous faites remonter les besoins, on s'en occupe, mais vous pouvez par exemple avoir un hôpital qui est commun à plusieurs conseils communaux, donc il faut que vous les gériez ensemble, donc on va créer les communes, et la commune c'est le rassemblement de plusieurs conseils communaux, et les communes, il va y avoir une loi des communes, et la différence entre les communes, alors donc il y a à peu près, hein, je vous donne les chiffres parce qu'ils changent régulièrement, mais il y a 49 000 conseils communaux au Venezuela, et il y a 5 300 communes. Et la différence entre la commune et le conseil communal, c'est que la commune va pouvoir entreprendre des activités économiques. Et donc vous avez des communes qui se sont les premières qui se sont lancées, qui ont été les pionnières, là. Voilà, El Maesal, c'est 3 000 hectares de maïs, c'est 600 têtes de bétail, c'est des porcs, etc. Et c'est autogéré. C'est autogéré, hein, y compris avec redistribution des bénéfices dans l'ensemble de la population. Donc vous avez déjà ça. Et par ailleurs, vous avez maintenant, alors peut-être que ça va s'arrêter du fait de la... Si Trump accentue la pression, mais vous avez quatre fois par an un référendum dans les communes, dans lesquelles tout le monde peut voter, Chavis ou pas Chavis, sur quel est le besoin prioritaire de la commune. Une fois que le projet a été élu, le gouvernement finance. Ça peut être un centre de santé, ça peut être l'achat d'une ambulance, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Si c'est de la construction d'un centre de santé, là encore, j'ai assisté à ça, c'est la population qui emploie des gens du quartier ou du village. Donc en fait, vous procurez du travail, ou ça peut être fait par une entreprise. Mais donc, il y a tout un processus de démocratie participative réellement. Alors c'est pas tout le Venezuela. Hein. Quand je vous dis, il y a 5300 communes et 49 000 conseils communaux, ça ne concerne pas tout le Venezuela. Mais c'est le noyau d'une expérience qui est en train de s'étendre, et c'est en particulier dans les communes, au moment où le Venezuela se retrouvait étranglé par les sanctions américaines, et où il ne pouvait plus importer d'alimentation, c'est en particulier dans les communes que le modèle économique du Venezuela a commencé à changer, puisque maintenant, en particulier à partir des communes, mais pas uniquement, le Venezuela produit son alimentation. Je veux dire, vous avez un certain nombre de communes qui ont créé des entreprises productives pour produire de l'alimentation. Vous avez, vous avez un peu tout. Hein. Vous avez des usines d'embouteillage. Bon, voilà, je résume à grands traits. Et ça, pour le coup, sauf si vous connaissez d'autres expériences, moi, pour le moment, je n'ai pas encore vu.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.